Nous retrouvons notre évêque, Monseigneur Marcaillet, en ce 4 février. Monseigneur Marcaillet, bonjour.
Bonjour.
Violaine Ricourt-Dumas, bonjour.
Bonjour.
Cette émission est diffusée donc sur Radio La Pourdire à Thiens, Pays Basque, et sur Radio Présence Lourdes-Pyrénées en Béarn et Bigorre. Alors, Monseigneur Hayet, le 6 janvier dernier, vous avez réuni les prêtres à Orthès, c'est la coutume, c'est la tradition, pour leur souhaiter une bonne année. Quel a été votre message et est-ce qu'il y a eu des annonces particulières au clergé en ce début d'année 2014?
Alors, mon message a été de rappeler aux prêtres trois vœux que je formulais à leur intention. D'abord, de prendre conscience toujours plus que nous appartenons à Dieu, par notre consécration baptismale d'abord, mais qui plus est par notre consécration sacerdotale. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu qui nous a pris en main pour que nous puissions être ces instruments, les instruments de sa grâce pour les fidèles. J'ai aussi insisté sur le fait qu'il fallait qu'on grandisse dans la charité fraternelle. Aimez-vous les uns les autres, nous dit Jésus. Et nous rappeler en ce début d'année la première épître de Saint Jean que nous lisons toujours dans le temps de Noël. Et puis, je les ai aussi invités à cette conversion pastorale à laquelle le pape François nous appelle en nous disant qu'il faut que nous mettions nos communautés en état de mission permanente. Voilà, que nous allions aux périphéries, que nous n'ayons pas peur de quitter les sentiers battus et qu'on ne dise pas, comme le dit le pape François dans son exhortation apostolique, on a toujours fait comme ça. Et puis, j'ai beaucoup commenté, justement, pendant le temps d'échange que j'ai eu avec eux, l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, qui me semble un événement important pour l'Église et qui précisément nous donne des orientations missionnaires pour notre ministère dans les années à venir. J'ai dit que cette exhortation apostolique, qui n'était sans doute pas sur le ton doctrinal ou disciplinaire, était, et c'était peut-être un peu nouveau, était comme une sorte d'exposé de théologie pastorale que le pape, en tant que pasteur universel des fidèles, nous écrit. Et d'une certaine manière, promulgue une sorte de renouveau kérigmatique. Il y a eu un renouveau charismatique dans l'Église, après le Concile Vatican II, en particulier à partir de l'année sainte 1975, qui est aussi un tournant dans l'histoire récente de l'Église, avec la floraison des nouvelles communautés, d'un certain renouveau charismatique, d'une certaine effusion de l'Esprit Saint de Pentecôte pour la mission. Et là, je pense que le pape marque ce qu'on pourrait appeler un renouveau kérigmatique en insistant sur l'annonce du kérigme, sur lequel j'ai déjà beaucoup insisté pour ma part dans la première lettre pastorale que j'ai écrite dans ce diocèse, la charité du Christ nous presse, le kérigme étant le cœur même du message que nous avons à annoncer au monde d'aujourd'hui.
Alors, Monseigneur Hayet, autre événement du mois de janvier, c'était du 18 au 26, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Vous avez vous-même présidé une célébration œcuménique à la cathédrale de Bayonne. Comment définissez-vous cette unité des chrétiens? C'est vrai que le pape François parle de dons que nous devons échanger entre différentes confessions. Est-ce que c'est aussi comme cela que vous voyez cette unité?
Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce sur quoi j'ai un peu insisté au cours de cette célébration. D'abord, je signale que depuis que je suis évêque, il y a maintenant un peu plus de 5 ans, c'est la première fois qu'on accueillait à la cathédrale une célébration œcuménique. Il y a toujours la célébration d'ouverture qui a eu lieu cette année, comme d'habitude, au Carmel. Je n'étais pas là le 18, donc c'est pour ça que j'étais heureux de pouvoir présider cette célébration à la cathédrale le 23. Le 18, c'est donc Madame la nouvelle pasteur Nathalie Pacrot, qui a prêché. Au temple, le dimanche suivant, c'est l'abbé Bagnard Fourques, donc il y a un échange de chair qui se fait. Et à la cathédrale, c'est moi donc qui, accueillant un peu tout le monde dans cette cathédrale de Bayonne, et dit quelques mots sur l'unité des chrétiens. J'ai insisté en effet sur cette question, d'abord que nous avons non seulement à prier ensemble pour l'unité, qui est un don que Jésus a déjà donné à son Église, mais qui doit être partagé précisément par tous ceux qui se réclament du Christ et qui sont aujourd'hui, à cause de l'histoire, séparés. Et j'ai insisté pour le fait que dans ce dialogue, nous soyons bien soucieux d'être des pèlerins vers la vérité, qui n'est pas d'abord une idée, un slogan que nous pourrions nous opposer les uns aux autres, mais qui est une personne, Jésus-Christ, et avec les moyens de sanctification, les éléments de vérité dont nous sommes dépositaires dans nos différentes églises ou communautés ecclésiales, comme celles qui sont issues de la Réforme, eh bien nous avons à nous convertir toujours plus à Jésus, de manière à ce que, sans perdre notre identité et sans demander à l'autre de la perdre dans ce dialogue, eh bien nous puissions grandir ensemble dans l'unité qui ne peut être fondée que sur la vérité, qui encore une fois est une personne, Jésus-Christ, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et puis j'ai insisté aussi sur le fait que cet œcuménisme résidait aussi dans un échange des dons, hein, comme nous le rappelait le pape François à l'occasion de cette semaine de prière pour l'unité, où, comme il le dit dans son exhortation apostolique sur l'engagement œcuménique, qui, comme disait Benoît XVI, est aujourd'hui irréversible. Hein, et cet échange des dons qui veut dire que eh bien, je reconnais que chez mon frère, d'une confession chrétienne différente de la mienne, l'Esprit Saint continue de communiquer ses dons. Et ces dons qui sont faits dans telle ou telle confession, comme disait le pape Jean-Paul II à propos de cette spiritualité de communion dont l'Église doit être toujours plus la maison et l'école, eh bien, ce don n'est pas fait d'abord pour lui, mais pour moi, qui suis soucieux de grandir dans l'unité, donc à la fois dans la vérité et dans la charité.
Concernant cette unité des chrétiens, on peut préciser que des jeunes de notre diocèse sont allés à Thésée, comme chaque année, prier avec d'autres chrétiens.
Alors, plus exactement à Strasbourg, cette année, hein, pour les rencontres européennes de Thésée.
Avec la communauté.
Donc, à l'initiative de Thésée, des frères de Thésée. Moi, je les avais accompagnés l'an dernier à Rome. Cette année, c'est donc Dominique Nalis, le délégué diocésain à la pastorale des jeunes, qui les a accompagnés. Il y avait d'ailleurs aussi une sœur de la fraternité Notre-Dame des Prêcheurs. Et il y avait un bon petit groupe de 17-18 jeunes, là, étudiants et jeunes professionnels, qui ont été très heureux, en effet, de participer à ces journées à Strasbourg.
Autre sujet, Monseigneur, c'est la campagne du denier de l'Église, puisque maintenant, elle est calée sur l'année civile. Peut-être un petit bilan pour l'année 2013. Et est-ce qu'il y aura des nouveautés, puisqu'on sait que vous aviez fait le buzz il y a 2 ans maintenant avec les panneaux d'affichage qui avaient été mis à Pau et à Bayonne. Est-ce qu'il y aura des nouveautés pour cette campagne 2014?
Alors d'abord, ce qui est encourageant, c'est que la campagne du denier pour 2013 montre une stabilisation du denier de l'Église par rapport à 2012. Donc les chiffres sont quasiment identiques. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle, parce que malgré la crise économique qui frappe quand même beaucoup nos concitoyens, les gens continuent d'être attentifs aux besoins de la mission de l'Église et continue d'être généreux. Alors peut-être que à certains endroits, le nombre de donateurs a augmenté et le don moyen a diminué. Qu'importe, on arrive quand même à une vraie stabilité du denier de l'Église. Donc il n'y a pas de diminution, ce qui est quand même très encourageant. Cette année, nous avons voulu faire en sorte que cette campagne du denier soit le plus proche du terrain local des paroisses. Et donc, il y a un certain nombre de réunions de lancement de cette campagne qui sont décentralisées, d'ailleurs, à 4 endroits différents dans le diocèse, pour inviter les curés et les équipes du denier, qui sont la cheville ouvrière de cette campagne, comme chaque année, eh bien, à une, peut-être une nouvelle manière qui sera davantage dans la relation personnelle des équipes du denier, qui peuvent être renforcées pour l'occasion par d'autres fidèles, en particulier plus jeunes, et les fidèles à l'occasion principalement des grands rendez-vous de l'année liturgique, je dirais, où nous n'avons pas seulement les chrétiens habituels, pratiquants réguliers, mais les chrétiens occasionnels. Hein, il faut savoir que 20% seulement des pratiquants réguliers donnent au denier de l'Église. C'est une chose qu'on ne sait pas bien, parce que je pense que les nouvelles générations sont peut-être tout simplement moins conscientes de la nécessité d'aider l'Église par leurs dons, hein, sachant que nous ne bénéficions d'aucune subvention ni de l'État ni du Vatican, comme certains le croient, à tort. Et donc d'essayer de cibler davantage sur ces chrétiens occasionnels qui, à la Toussaint, à Noël, au Rameau ou à Pâques, au 15 août, remplissent nos églises avec une espèce de donation des enveloppes qui seront éditées en moins grand nombre, parce que souvent il se trouve que on a beaucoup d'enveloppes qui restent en déshérence dans les sacristies ou dans le fond des églises, qui seront distribuées de la main à la main pour essayer de personnaliser un peu le contact.
Autre nouveauté, Monseigneur Hayet, ce sont les missions paroissiales. C'est vrai que pour la troisième fois, la communauté Palabra Viva va aller dans une paroisse. Elles étaient allées à Oloron-Sainte-Marie, elles sont allées à Cambeau. Et là, c'est à Andaille, cette semaine, du 2 au 9 février. Est-ce que c'est quelque chose qui va devenir régulier et que se passe-t-il pendant ces semaines de mission?
Alors, c'est le fruit un peu de la réflexion de ce petit groupe donc, que j'ai constitué il y a maintenant un peu plus d'un an, qui est l'Observatoire de la Mission, et de savoir comment est-ce qu'on pourrait faire des propositions, c'est de l'ordre des propositions bien sûr, aux paroisses pour mettre en place une pastorale d'évangélisation, selon le vœu réitéré par les papes successifs jusqu'à notre pape François avec beaucoup d'insistance, comme on le sait. Et l'idée, c'est de fédérer les forces vives d'une communauté paroissiale avec l'aide d'une communauté de missionnaires extérieurs qui sont un peu rompus dans le charisme ou la grâce de la première annonce, et de fédérer ces forces vives pour organiser dans la paroisse, sur une durée un peu prolongée de 8 à 9 jours, une mission qui permette de s'essayer à rendre accessible le message de l'Évangile à ceux qui sont un peu plus loin, qui sont un peu plus éloignés, qui participent moins à nos assemblées, tout en ayant le souci de renforcer la conviction missionnaire par un recentrage sur le Christ, à travers l'adoration, à travers la prière de louange, à travers la célébration de l'Eucharistie quotidienne, des fidèles les plus engagés dans nos communautés. Alors c'est une proposition qui est faite de manière très large aux paroisses. C'est à l'initiative des curés et de leurs conseils pastoraux de prendre cette proposition au vol et de la mettre en œuvre, comme ça s'est fait de fait avec succès à Cambeau et comme c'est en train de se faire aujourd'hui à Andaille.
Depuis notre entretien du 19 novembre dernier, vous avez visité deux paroisses, la paroisse Saint-Vincent-des-Baïses-Monnin, c'était au mois de novembre, et vous venez tout récemment de visiter la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, Bayonne-Rive-Gauche-Saint-André. Alors, ces visites pastorales vous tiennent à cœur. Je crois que vous en êtes à plus de la moitié des visites des paroisses dans notre diocèse. Est-ce que vous découvrez à chaque fois des réalités très différentes?
Alors, c'est toujours des réalités très différentes parce que l'essentiel de la visite, c'est la rencontre avec les personnes. Et donc, les personnes sont toujours très différentes. Et d'abord, chaque personne, chaque curé, chaque fidèle et chaque communauté a forcément un visage qui est particulier, même s'il y a des constantes par rapport à l'évolution de nos assemblées qui vieillissent, notre clergé qui est souvent aux prises avec une démultiplication de tâches et avec moins de personnel et d'église en termes de prêtres et de fidèles engagés. Voilà, donc il y a toujours le même défi de la mission qui se présente à nous dans une société de plus en plus sécularisée, où la grande majorité des habitants des territoires de nos paroisses ne se sentent pas concernés parce que nous vivons dans nos assemblées, etc. Donc je crois qu'il y a toujours un peu les mêmes défis à relever, avec les mêmes vitalités, c'est-à-dire l'engagement quand même fidèle, non seulement de nos prêtres qui font mon admiration par leur dévouement et leur fidélité, mais aussi des fidèles engagés dans les différents domaines de la mission, et en même temps ce grand défi de rejoindre ceux qui ne viennent plus, quoi, ou qui ne viennent pas. Puis en même temps, c'est sûr que quand on visite la paroisse de Saint-Vincent-des-Baïs avec un territoire immense, des kilomètres à faire pour rejoindre les relais où l'habitat est extrêmement dispersé, et évidemment rural et à majorité agricole, même viticole, puisque l'essentiel du vignoble de Jurançon est sur la commune de Monnin, on le sait pas bien ça. Et puis la ville, rive gauche de Bayonne, qui est la paroisse Notre-Dame d'Assomption, c'est évidemment un grand écart, où là, il y a une concentration urbaine, il y a des quartiers tout à fait typés, entre Balichon, le vieux Bayonne, qui n'a pas encore été tout à fait réhabilité, et le quartier des Arènes, qui est beaucoup plus résidentiel, ou le quartier de Saint-Amand, derrière Villapia, tout ça, c'est extrêmement... Et le quartier qui se construit vers Saint-Pierre-d'Irube, au-dessus de Saint-André, c'est sûr que tout ça est très diversifié. Donc je suis toujours très heureux de voir surtout que la visite pastorale permet le rassemblement des forces vives des paroisses et permet des échanges extrêmement fructueux pour appréhender l'avenir et avec espérance, en se retroussant les manches et en se mettant décidément dans l'esprit d'une vraie conversion pastorale de nos communautés.
À Bayonne, il y a quand même la particularité d'avoir ces prêtres de la fraternité Saint-Thomas-Becket que vous avez fait venir. Et comment ça se passe avec eux? Quels sont les retours des paroissiens?
Alors, je crois qu'ils sont là essentiellement, même s'ils sont habitants sur la paroisse, pour les établissements scolaires. Car une particularité de cette paroisse Notre-Dame d'Assomption à Bayonne, sur la rive gauche donc de la Doure, c'est la multiplicité des grands établissements de l'enseignement catholique, hein, que ce soit Saint-Bernard sous tutelle des frères écoles chrétiennes, que ce soit l'Argenté sous la tutelle ursuline, que ce soit Villapia sous la tutelle diocésaine ou Notre-Dame et Saint-Amand. Ça veut dire qu'il y a, et puis il y a aussi les lycées et collèges publics. Donc leur ministère est essentiellement d'être prêtre envoyé en mission auprès de ces établissements d'enseignement catholique ou à l'aumônerie d'enseignement public ou à l'aumônerie des étudiants. Et je crois que le retour est plutôt très positif. Hein, j'ai eu beaucoup d'échanges avec les chefs d'établissement et les choses se mettent en place de manière très, très paisible. Et je crois que c'est assez positif.
Vous avez aussi visité, je crois, le camp des Gitans.
Alors j'ai visité le camp des gens du voyage, on peut dire, qui sont maintenant pas mal sédentarisés, avec un très beau petit témoignage d'un enfant de 9 ans, très souriant dans une roulotte, là, qui va pas beaucoup au catéchisme, mais qui est environné quand même par beaucoup de familles qui sont très engagées dans le mouvement pentecôtiste. Hein, mais lui est catholique par sa famille, et il me dit « moi je suis très croyant ». Moi, je suis très croyant. Je dis, oui, ben, tu sais que Dieu est toujours là avec nous. Oh oui, il est toujours là, et pourtant, on le voit pas, hein, mais il est toujours là. Et c'était un très beau témoignage donné par cet enfant au milieu de ce camp des gens du voyage.
Merci, Monseigneur, pour toutes ces informations sur notre vie diocésaine. Dans une deuxième partie, nous allons parler de la pastorale familiale avec un questionnaire sur la famille qui a été envoyé par le Vatican récemment en vue du synode sur la famille en octobre prochain. Il a été envoyé donc à tous les diocèses du monde. Il était à rendre ces jours-ci. Alors, dans notre diocèse, comment ce questionnaire a-t-il été traité? Est-ce que le retour que nous donnons à Rome de la part des mouvements concernés, pouvez-vous nous le résumer en quelques mots?
Alors, je ne pourrais pas vous dire le contenu parce que ce contenu n'est pas publiable. À la demande du secrétaire du synode des évêques à Rome, parce qu'il ne s'agit pas d'un sondage d'opinion, hein, c'est une enquête qui permet de mesurer, d'évaluer sur les grands thèmes de la famille, à la fois par rapport aux grands documents de l'enseignement de l'Église, qui balisent un peu cette pastorale familiale depuis le Concile, et puis à travers les nouvelles réalités que nous constatons dans notre société, qui est quand même très fragilisée du point de vue de la famille, d'où d'ailleurs la convocation de ce synode extraordinaire, avant un synode ordinaire qui aura lieu l'année suivante, à Rome donc. Je pense, si vous voulez, d'abord que ce questionnaire a fait un peu peur, qui, à mon avis, n'est pas compliqué, mais qui peut l'être pour ceux qui sont moins au fait de cet enseignement de l'Église depuis 40 ans. Et donc c'est un petit peu ça que je me suis fait comme première réflexion.
Parce que les formules utilisées n'étaient pas accessibles?
Parce que les formules utilisées sont celles qui sont utilisées par le magistère de l'Église depuis 40 ans, disponibles à tous, normalement devraient être monnayées dans les paroisses et dans les communautés depuis ce temps-là, et que ça n'a visiblement pas été tout à fait fait partout. C'était la première réaction des doyens quand je leur ai remis ce questionnaire pour le diffuser dans les paroisses auprès des curés et par les curés auprès des fidèles, à commencer par ceux qui sont engagés dans la pastorale familiale, la préparation au mariage ou autre. Ça a été de dire, mais ils vont rien comprendre. Alors, ils m'ont demandé de faire une petite synthèse, donc j'ai fait un résumé en 5 grandes questions qui comprenaient chacune des sous-questions de cet ensemble de ce questionnaire qui était pour autant disponible. Et nous avons eu un certain nombre de réponses, mais pas énormément, parce que le délai était très court. On nous demandait de remettre notre synthèse des réponses du diocèse à la conférence évêque de France, donc à Paris, avant le 15 janvier, et eux-mêmes devaient faire une synthèse de toutes les réponses qu'ils auraient reçues des diocèses au secrétaire du synode à Rome avant le 31 janvier. Donc c'est vous dire que la brièveté du délai nous a obligés à aller assez vite et à l'essentiel. Donc c'est pourquoi nous avons reçu 13 réponses, qui sont à la fois des réponses collectives, hein, pas seulement d'individus, un ou deux individus, mais sinon c'est des réponses ou bien des groupes de prêtres ou bien des groupes paroissiaux qui ont répondu, des mouvements de pastorale conjugale comme les équipes Notre-Dame, également des équipes de préparation au mariage qui ont sont donné la peine de répondre. Ce qui ressort des réponses, même si je ne pourrais pas entrer dans les détails, c'est, comme je le disais, une certaine ignorance quand même de ces grands documents qui balisent la pastorale familiale depuis des années et qui me font dire qu'il y a quand même un petit déficit de formation de nos fidèles, en particulier ceux qui sont chargés d'accompagner les fiancés ou les familles, qu'elles soient en situation difficile, irrégulière ou régulière. Et donc ça nous montre que le chantier de la pastorale familiale est ouvert devant nous.
Alors c'est peut-être pour cette raison que vous avez nommé depuis le 1er janvier un délégué épiscopal à la vie et à la famille.
Voilà, alors c'était une décision que nous avons prise au conseil épiscopal lorsque nous sommes rassemblés pour notre session de fin d'année en juillet dernier, donc à Irun. Et je faisais part justement de ce paradoxe que la famille était une des réalités les plus importantes de nos communautés paroissiales, était un des défis les plus importants de notre pastoral, confirmé d'ailleurs par la convocation de ce synode extraordinaire pour le pape François en octobre 2014, et que nous n'avions pas vraiment de personnes employées à plein temps pour cette tâche, alors que pour la catéchèse, pour la communication, pour le catéchuménat, peut-être un peu moins parce qu'il y a moins de personnes, mais bien des services pastoraux, nous employons des gens à plein temps avec des équipes qui sont souvent conçues de bénévoles, mais des équipes qui sont bien charpentées. Et donc on s'est dit, pourquoi pas employer à plein temps un responsable de la pastorale familiale qui pourra constituer une équipe et répondre aux défis pastoraux qui se présentent à nous. Donc c'est pourquoi j'ai nommé Guillaume d'Alençon, qui était mon secrétaire depuis 5 ans, dont je connais les compétences et en qui j'ai confiance, évidemment, qui connaît maintenant un peu le diocèse, et même bien, forcément. Je l'ai nommé délégué épiscopal à la pastorale de la famille et de la vie, donc en lien donc avec l'Académie diocésaine pour la vie, dont il est déjà le secrétaire, donc devient le délégué général, de manière à bien lier ces deux réalités et aussi considérer la question de la vie, de la pastorale de la vie, comme un en soi, étant donné les nouveaux défis là aussi qui se présentent par rapport au caractère sacré inviolable de toute vie humaine. Et à charge à lui de constituer une équipe, un calendrier aussi, d'activités, tout public, mais aussi de formation, à charge à lui d'abord, évidemment, de rencontrer les réalités qui sont présentes dans notre diocèse, tant dans la préparation au mariage que dans l'éducation affective et sexuelle des jeunes, que dans l'accompagnement des familles par les mouvements bien constitués et très présents dans notre diocèse, à commencer par les équipes Notre-Dame de spiritualité conjugale et familiale, mais aussi la prise en compte des situations plus difficiles et un peu nouvelles, comme les divorcés remariés, et tant d'autres souffrances qui accompagnent la fragilisation de la famille dans notre société d'aujourd'hui.
Alors concernant les sujets sur la vie, justement l'actualité en ce moment est l'occasion de s'exprimer. Vous avez d'ailleurs été présent à la marche pour la vie du 19 janvier. Il y a eu aussi sur les sujets de la PMA, de la GPA, etc., la manifestation du 2 février. L'an dernier, vous avez été très présent dans les manifs pour tous. Un peu moins cette année, votre priorité c'était la marche pour la vie.
Alors ça a été la marche pour la vie parce que j'ai salué le geste des organisateurs de la marche pour la vie l'an dernier, de s'être effacé devant l'urgence du moment qui était le projet de loi Taubira, comme on sait, de mariage pour tous, et pour permettre la plus vaste mobilisation possible de la manif pour tous, qui de fait rassemble beaucoup plus que pour la marche pour la vie. On voit bien que la marche pour la vie a rassemblé le double de personnes, au dire de la police comme au dire des organisateurs, qu'il y a 2 ans, ce qui est donc encourageant. Moi, j'y ai participé parce que c'est vrai que le massacre des innocents que sont les victimes de l'avortement est loin de me laisser indifférent. et pour moi reste quand même une très grosse blessure de la vie dans notre société d'aujourd'hui, mais c'est une blessure pour les enfants qui sont supprimés avant de naître, c'est une blessure pour les femmes qui ont été souvent contraintes contre leur gré d'avorter, et c'est une blessure aussi pour les femmes qui ont avorté, étant donné les traumatismes que l'on pointe davantage du doigt aujourd'hui. Et il me semble que s'engager pour la vie, pour le respect de la vie, pour la défense de la vie, depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle, est pour moi quand même une nécessité pour le pasteur que je suis, qui veut être au service des plus petits, des plus faibles, et qui est plus faible, plus sans défense, plus innocent, comme le disait le pape François dans son exhortation apostolique, la joie de l'évangile, que les enfants à naître.
Vous avez organisé deux conférences à Pau et à Bayonne sur le thème de l'avortement. Est-ce que ces conférences, ces rendez-vous permettent peut-être aux diocésains de prendre conscience de cette question pour les temps qui viennent?
Alors je crois que c'est le but, en effet, de ces conférences, qui se situent en effet dans un contexte qui est opportun, puisque, comme vous le savez, a été voté au Parlement très récemment un projet de loi qui, sous prétexte d'égalité entre les hommes et les femmes, a supprimé la clause de détresse qui était inscrite dans la loi, somme toute, de dépénalisation de l'avortement de 1975, appelée la loi Veil, pour légaliser l'avortement comme un droit à part entière des femmes si elles ne désirent pas poursuivre leur grossesse, comme c'est désormais stipulé dans la loi. Assorti en plus d'un amendement qui étend le délit d'entrave à l'avortement quant à l'information. Donc vous voyez, ça, tout ça est assez grave. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs notre députée de la circonscription de Bayonne, Madame Capdevielle, qui défend un amendement pour supprimer l'objection de conscience du personnel médical par rapport à l'avortement, ce qui devient de plus en plus grave, et j'allais dire qui devient une véritable dérive totalitaire, osons le mot, hein, même si ça rencontre quand même une sorte d'anesthésie des consciences, et on a l'impression que tout ça peut se faire sans que personne ne s'en aperçoive, et ça dit l'état de banalisation de l'avortement dans notre pays aujourd'hui. Donc je crois que ces conférences, elles viennent aussi dans une nouvelle prise de conscience que l'on sent dans la population française, que l'on sent dans les jeunes générations, comme chez nos voisins d'Espagne d'ailleurs, hein, où l'on voit que le gouvernement d'aujourd'hui, comme il s'y était engagé dans la campagne électorale qui les a amenés à nouveau au pouvoir, revient sur la loi qui légalisait l'avortement comme un droit, et porté aussi par un grand mouvement populaire qui n'a pas cessé depuis 2005 en Espagne, hein, à travers des manifestations aussi gigantesques, qui semblent aussi indiquer au gouvernement qu'il y a peut-être quand même des retours sur ces lois à opérer. Donc moi, je dis qu'il y a une nouvelle prise de conscience. Les évêques français ont aussi parlé dans ce domaine. Comme vous le savez, il y a eu un communiqué du Conseil permanent la veille de cette manifestation, ou la veille de la discussion, puisque c'était en même temps quasiment, de ce projet de loi à l'Assemblée, pour dire combien c'était grave d'entrevoir ces nouvelles menaces sur la vie. Et au sein, comme je l'ai déjà dit ici, au sein de la Conférence des évêques de France, il y a un groupe de travail qui nous fait travailler précisément sur le phénomène social de l'avortement. Donc je pense que les temps sont mûrs pour qu'on ait une nouvelle prise de conscience de la gravité. Comme nous l'a rappelé le pape François, qui lui nous a dit à plusieurs reprises dans des interviews qu'il ne fallait pas parler tout le temps de l'avortement en dehors d'un contexte précis, et il n'y a pas pape qui en ait parlé autant en si peu de temps, car vous savez, non seulement il en parle de manière très forte dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, il en parle de manière très forte devant le corps diplomatique, avec des mots qui ne sont vraiment pas inspirés par l'école des nonces, en disant que la seule pensée que des enfants ne verront jamais la lumière, victimes d'avortement, nous fait horreur. Et il a encouragé lui-même publiquement cette marche pour la vie, à Paris comme à Washington. Donc je me dis que les temps sont mûrs pour redire les choses, sans stigmatiser les personnes. J'entends bien que quand on parle d'avortement, on parle de beaucoup de souffrances autour, et en particulier des femmes, mais aussi des hommes, qui quelquefois sont mis en dehors de, du coup, dans la décision. Et je dis bien comme le pape nous le rappelle, à la fois, la doctrine de l'Église ne peut pas changer, elle est immuable, car ça n'est jamais un progrès, comme il le dit, de résoudre des problèmes en éliminant une vie humaine, et en même temps, reconnaître que nous n'avons pas assez fait pour accompagner les femmes, qui souvent sont un peu acculées à ce geste, sans voir trop d'alternatives, par manque sans doute d'aide sociale en France aujourd'hui.
Dans notre diocèse, il y a d'ailleurs des associations qui aident les femmes en détresse, en situation d'avortement, qui ont été évoquées lors de la conférence à Bayonne.
Voilà, donc il y a une association qui s'appelle Naissance et Vie 64 et qui met en place des structures d'écoute, d'accueil, d'hébergement sur Bayonne de femmes enceintes en difficulté. Et donc ça, c'est une belle initiative concrète qu'il faut aussi saluer.
Sur ces questions de l'avortement, le prochain colloque pour la vie que vous allez organiser aura lieu bien cette année à Pamplune, après celui qui avait eu lieu à Biarritz.
Voilà, nous avions décidé avec les évêques du Pays Basque, autant du Nord que du Sud, de mutualiser un peu nos forces par rapport à ce congrès international pour la vie. Et après qu'il ait eu lieu à Biarritz, donc en 2012, il aura lieu en novembre 2014 à Pamplune, hein, sur le thème du statut de l'embryon.
Alors sur tous ces sujets de société et sur les projets du gouvernement, hein, par rapport à l'euthanasie, la théorie du genre, la PMA, la GPA, il y a aussi des opposants à vos positions, Monseigneur Hayé. Est-ce que vous sentez qu'il y a un fossé qui se creuse entre la position de l'Église et puis la société civile ?
Alors je ne le crois pas, d'abord parce que ce n'est pas seulement la position de l'Église, que l'Église émette son point de vue sur l'avortement, sur le mariage et la famille et sur l'éducation des enfants à la vie sexuelle et affective en pointant du doigt cette théorie du genre qu'on ne cesse aujourd'hui de parler comme supposée alors que nous avons des vidéos, des interviews, des circulaires tant du ministre de l'Éducation nationale que de la ministre des Droits des Femmes qui parlent explicitement de la nécessité d'enseigner cette théorie du genre. Hein, en tout cas tout ce qu'il en est d'expérimentation sur les enfants.
Ce qu'ils appellent l'ABC de l'égalité.
L'ABC de l'égalité, mais il y a aussi, comme vous le savez, le site Ligne d'Azur qui a été recommandé explicitement par le ministre de l'Éducation nationale par une circulaire à tous les établissements enseignement catholique dans cette matière. Et comme si vous allez sur ce site aujourd'hui, vous verrez qu'il y a un moment on ne le voyait plus. Et qu'il a été corrigé depuis. Donc c'est vous dire combien il y a là une manipulation qui est très grave et qui ne concerne pas seulement l'Église. Moi, je ne dirais pas qu'il y a une fracture qui se creuse entre la position de l'Église et la société civile, parce que je vois au contraire que la société civile se réveille et qu'elle reprend ses droits dans la société d'aujourd'hui et qu'il y a un rééquilibrage des pouvoirs. Qui aujourd'hui est capable de mobiliser autant de personnes, ni les partis politiques, ni les syndicats, ni le gouvernement qui est en baisse, en chute libre dans les sondages, mais un collectif d'associations qui viennent de la société civile, comme la Manif pour tous, qui est capable de manière réitérée de mettre dans la rue des centaines de milliers de personnes. Donc moi, je ne suis pas sûr que le fossé se creuse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tensions, qu'il n'y a pas des divisions, même dans nos communautés chrétiennes. Mais pour autant, je crois qu'il y a une prise de conscience au sein de la société civile, bien au-delà des frontières de nos communautés chrétiennes.
Monseigneur Hayé, nous allons terminer cette émission avec les prochaines échéances, qui sont les élections municipales au mois de mars, justement, où toutes ces questions que nous venons d'évoquer seront peut-être aussi à remettre sur le tapis. Dans votre message de Noël, vous avez rappelé que ces élections seront l'occasion de promouvoir le bien commun. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là ?
Alors, j'ai eu d'ailleurs une très belle rencontre ici à Bayonne avec quelques élus, qui aujourd'hui se présentent, je crois, sur deux listes différentes à Bayonne, donc au cours de ma visite pastorale. Et nous avons pu aborder de manière très en amont de tout ce qui est querelles, j'allais dire partisanes, qui font partie aussi de la politique à la veille de quelques élections municipales ou nationales. Mais nous avons abordé en amont cette question du bien commun. C'est vrai que quand on est engagé dans la politique aujourd'hui, porté par des partis politiques, on est forcément très vite tenté par l'intérêt et le pouvoir, et dans la course à l'élection, dans la compétition, eh bien, on peut être appelé à porter des coups et exercer une certaine controverse qui peut aller jusqu'à la querelle et le procès d'intention. Et je voulais rappeler avec eux que l'essentiel quand même de la politique, c'était la recherche du bien commun. Et que ce bien commun n'est pas la somme des biens particuliers portés par des revendications catégorielles et qui risqueraient d'induire des concurrences et finalement des divisions, comme nous le voyons en effet beaucoup dans notre société d'aujourd'hui, qui est profondément morcelée, profondément divisée, profondément déchirée. Mais le bien commun, c'est le bien que tous peuvent rechercher en commun. Pourquoi ? Parce qu'il garantit la dignité de toute personne humaine dans la société, sans exception, à commencer par les plus petits, les plus fragiles, les plus faibles. Voyez ? Et je crois que quand on a cette finalité en vue, qui est la fin dernière de toute société humaine, et donc qui est la fin de la politique, la recherche du bien commun, et donc la recherche d'un ordre social juste, donc la recherche de la justice. La justice, ça nous établit dans le contexte des droits humains, mais des droits de tous. Voyez, aujourd'hui, c'est toujours un droit contre un autre. C'est le droit des salariés contre le droit des patrons, ou c'est le droit des patrons et des actionnaires contre le droit des salariés. C'est le droit de la femme contre le droit de l'enfant. Vous voyez, on est toujours un peu dans cette dialectique qui est, à mon avis, l'expression d'une imprégnation profonde de la dialectique marxiste, qui pourtant n'a plus beaucoup d'adeptes, en tout cas dans les régimes politiques, sauf en Chine, à Cuba et au Vietnam. Mais ceci dit, vous voyez, c'est cette espèce de concurrence de droits. Non, le bien commun, c'est le bien que tous peuvent rechercher en commun et qui garantit la dignité de toute personne humaine sans exception. Et c'est très important que ceux qui briguent les suffrages de leurs concitoyens, même dans des élections municipales, eh bien montrent qu'ils ont d'abord ce souci-là et qu'ils sont capables de payer cher le prix fort de leur fidélité à cette recherche du bien commun qui passe aussi par une fidélité à la voie de la conscience et à la voie de la vérité.
Le 2 mars prochain, il y aura la fête de Saint-Léon, patron de la ville de Bayonne. À cette occasion, vous avez souhaité inviter le nonce apostolique en France.
Oui, parce qu'on invite toujours, c'était la tradition je pense, on a toujours fait comme ça, alors pour le coup, pour la fête de Saint-Léon à Bayonne, d'inviter quelques personnalités ecclésiastiques. Pour ma part, j'ai invité le cardinal Ricard, le cardinal Sarah, qui était venu pour prêcher la retraite à nos prêtres, l'évêque de Luçon, Monseigneur Castet, qui est un ami. Et cette année, je me suis dit, pourquoi pas inviter le nonce apostolique, qui est sans doute assez friand de connaître un peu le terrain des diocèses, puisqu'il est le représentant du pape, sans doute auprès du gouvernement, mais aussi auprès de l'Église locale. Donc il a accepté très gentiment de venir simplement présider cette fête de Saint-Léon à Bayonne. Et d'ailleurs, j'ai invité aussi Monseigneur Moller. Je pense que j'admire sa discrétion pendant toutes ces premières années de mon épiscopat. J'ai eu l'occasion de le rencontrer évidemment dehors. Et je me suis dit que c'était peut-être important pour lui et pour moi qu'il puisse être aussi présent à cette fête de Saint-Léon à Bayonne le 2 mars prochain.
Alors, le nonce apostolique, c'est Luigi Ventura.
Luigi Ventura, le nonce apostolique est donc un diplomate, on va dire, puisqu'il a fait l'Académie pontificale, qu'on appelle trivialement l'école des nonces, et qui est l'ambassadeur du Saint-Siège auprès de l'État français, donc pour ce qui est du nonce apostolique à Paris, et donc dans le cadre des relations entre l'Église et l'État, entre le Saint-Siège, qui est un État d'ailleurs, à part entière, et l'État français. Et à ce titre, il est aussi le représentant de l'Église auprès de la conférence épiscopale, et il est chargé, en particulier, de recruter les nouveaux évêques. Hein, donc c'est lui qui conduit les consultations nécessaires auprès des diocèses, auprès des prêtres, des fidèles, des évêques, pour la nomination des évêques pour les postes à pourvoir en France.
Et quel sera le programme de cette fête de Saint-Léon ?
Alors, comme d'habitude, j'allais dire, il y aura la messe solennelle pontificale à la cathédrale à 11h30, et puis l'après-midi, les vêpres solennelles à 16h, suivies du salut du Saint-Sacrement. Donc oui, c'est très simple, très liturgique, mais c'est un rassemblement qui a lieu dans la cathédrale de Bayonne.
Une autre date à retenir qui va rassembler tout notre diocèse, c'est le 8 juin prochain à Pau, la grande journée de diocèse en fait, qui a donc déjà eu lieu il y a 2 ans à Anglette, et cette année qui aura donc lieu à Pau.
Alors qui aura lieu à Pau, pour satisfaire quand même à la demande des Béarnais, qui sont toujours obligés de se déplacer sur la côte basque pour les 2 premières éditions de cette grande fête diocésaine, et qui aura lieu à l'ensemble scolaire de l'Immaculée Conception à Pau. Au cours de cette fête diocésaine, non seulement, ben, comme d'habitude, puisque c'est la Pentecôte, confirmerai les adultes du diocèse qui demandent la confirmation, et les grands jeunes. Et puis, c'est au cours de cette journée que nous consacrerons le diocèse aux 2 cœurs unis de Jésus et de Marie, donc au Sacré-Cœur de Jésus, au Cœur Immaculé de Marie, comme je l'ai annoncé déjà depuis assez longtemps dans ma lettre pastorale, et que nous essayons de préparer spirituellement dans nos communautés paroissiales, comme j'ai demandé aux membres du conseil presbytéral de m'aider à trouver les moyens de cette préparation. J'ajoute que cette démarche est une démarche qui se situe dans le contexte de la religion populaire, qui est remise à l'honneur d'ailleurs par notre pape François, qui vient d'Amérique latine, où la religion populaire est un réel lieu d'expression de la foi du peuple de Dieu, hein, populaire dit peuple de Dieu, à travers une dévotion qui peut rendre accessible à l'ensemble du peuple de Dieu, non pas seulement à quelques-uns, mais à l'ensemble du peuple de Dieu, des réalités fondamentales de la vie chrétienne, à commencer par la consécration baptismale. Car il est évident que se consacrer à Jésus par Marie, pour faire court, à travers une dévotion populaire qui trouve sa source dans la Sainte Écriture et qui a une histoire à travers toute la tradition de l'Église, la tradition de la piété populaire, eh bien c'est essentiellement reprendre conscience de sa consécration baptismale, c'est-à-dire de son appartenance à Dieu par le baptême, de son demeurer dans l'alliance avec Dieu qui a été inaugurée au jour de notre baptême. Et en même temps, c'est pas fuir les réalités de notre vie humaine dans le monde, mais c'est ressaisir tout ce qui fait notre humanité pour l'intégrer dans cette consécration baptismale, c'est-à-dire dans cette alliance avec Dieu.
Le pape lui-même a consacré le monde au cœur immaculé de Marie, c'est voilà. le même processus.
Voilà, le pape Jean-Paul II l'avait fait, à la demande de Notre-Dame de Fatima, en 84. Le pape Benoît XVI a consacré tous les prêtres à Fatima, à l'année sacerdotale, pendant l'année sacerdotale au cœur immaculé de Marie. Et le pape François, au cours de l'année de la foi, le 13 octobre, jour anniversaire des apparitions de Notre-Dame de Fatima, devant la statue de Notre-Dame de Fatima qu'il a fait venir de Fatima à Rome, a consacré le monde au cœur immaculé de Marie. Donc c'est un peu dans cette mouvance, mais ce qui m'importe, c'est que les communautés se ressaisissent vraiment et s'y préparent spirituellement. C'est un acte collectif, c'est un acte du peuple de Dieu. Voilà. Et pour moi, c'est très important que ça ne vienne pas comme un rite magique un peu extérieur à la vie de l'Église et du monde.
Merci beaucoup, Monseigneur Hayet, pour cet entretien. Notre prochain entretien aura lieu au mois de mars. Nous saluons en attendant tous nos auditeurs de Radio Lapourdie et de Radio Présence.
Merci.
Merci.